récit.
Décryptage, Corinne Manjou.
Bonjour à tous. Décryptage vous invite aujourd'hui en Afrique australe, au pays des plus grandes chutes du monde, le pays du légendaire safari à pied, le pays du fleuve Zambèze, direction la Zambie. Les élections présidentielles auront lieu ce jeudi en Zambie, un scrutin dans la douleur puisqu'il s'agit de désigner un successeur au président Lévi Patrick Mwanawasa, décédé au mois d'août dernier dans un hôpital à Paris des suites d'une attaque cérébrale. Arrivé au pouvoir en 2002, le président Mwanawasa s'est éteint à l'âge de 59 ans avant la fin de son deuxième mandat, prévu pour 2011. Selon la Constitution, le vice-président Rupia Banda assure l'intérim et un nouveau président doit être élu en l'espace de 3 mois après la mort du chef de l'État. Quelle est l'histoire de la Zambie? Où est situé précisément ce pays? Quels sont les enjeux de cette élection présidentielle? Qui sont les candidats en lice? Nous allons répondre à toutes ces questions avec vous, Ingolf Diener. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 8 et spécialiste de l'Afrique australe. Merci de venir nous décrypter la Zambie. Mais tout d'abord, cette élection organisée en raison du décès du président en exercice n'était ni prévue ni budgétée. Par ailleurs, faute de temps, la commission électorale a décidé d'utiliser les anciennes listes électorales du scrutin de 2006. Est-ce que ces conditions peuvent permettre d'assurer des élections totalement irréprochables d'après vous?
Cette élection était prévue dans son principe, puisque la Constitution justement prévoit que dans ce cas de figure, il doit y avoir une élection présidentielle dans les 90 jours, vous l'avez dit. Maintenant, il n'était pas prévu que Mwanawasa serait victime d'une attaque cérébrale, donc la mort subite est difficile à prévoir et encore moins à budgétiser. Quant à l'état d'impréparation, c'est vrai, le scrutin aurait pu être repoussé encore de 2 voire 3 semaines. Bon, mais les listes d'il y a 2 ans, je pense qu'ils ont essayé de les mettre à jour, d'où la dispute autour des 600 000 bulletins vierges qui ont été imprimés, un peu par inadvertance, parce que quand les machines tournent, etc., mais aussi pour prévoir qu'il y a peut-être plus d'électeurs que ceux qu'on a recensés il y a maintenant 2 ans.
Avant de continuer, un coup d'œil sur la carte.
Décryptage, la géographie.
La Zambie, officiellement République de Zambie, est située en Afrique australe sur une superficie de 752 614 km². Ce pays en forme de croissant qui n'a pas d'accès à la mer est une sorte de frontière entre l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. La Zambie est entourée de 7 pays, Ingolf Diener, lesquels?
Donc il y a le Congo-Kinshasa, il y a la Tanzanie, il y a le Malawi, le Mozambique, le Zimbabwe, mais aussi le Botswana, la Namibie et l'Angola.
Combien y a-t-il d'habitants en Zambie et qui sont-ils?
Il y a environ 12 millions. La densité est très faible, il y a 16 habitants en moyenne par kilomètre carré. Près de la moitié presque vit dans des villes, parce que c'est un pays qui a été développé sous la colonisation, et depuis ça continue, autour du secteur minier, et là, plus particulièrement et très lourdement, autour du cuivre. Donc il y a eu une migration ouvrière avec un fort brassage de population, tout ça essentiellement selon l'axe ferroviaire sud-nord, conçu par Cecil Rhodes, devait faire partie du grand rail allant du Cap au Caire.
Au Caire. Il faut rappeler aussi que ce pays a accueilli plusieurs centaines de milliers de réfugiés, notamment originaires de République démocratique du Congo et d'Angola. Quelle langue parlent les Zambiens, Ingolf Diener?
Il y a la langue officielle qui est l'anglais. Ensuite, les linguistes ont recensé une 20aine de langues africaines, dont 7 ont le statut de langue régionale officielle.
Et quelles sont les religions dominantes ici?
Essentiellement le christianisme, surtout sous ses formes protestantes. Il y a aussi pas mal d'églises du réveil, de la renaissance. Il y a bon, peut-être 5% de musulmans, mais c'est le christianisme qui domine très largement.
Alors, la capitale de la Zambie, c'est Lusaka. Vous avez parlé d'une population fortement urbaine. Quelques grandes villes, Kasumbalesa, Kitwe, Dola, Livingston et Kabwe. Alors, la monnaie zambienne, c'est le kwacha. Est-ce que vous avez une idée de la parité avec l'euro ou même avec le dollar?
Un euro vaut à peu près 3000 kwacha.
Et l'économie zambienne reste essentiellement agricole, hein, même si le tourisme génère une bonne part des devises. Mais c'est aussi un pays qui regorge de ressources naturelles.
C'est un pays de savane avec un potentiel agricole. Mais le porteur de devises et porteur de l'économie jusqu'à nouvel ordre, le cuivre.
Je rappelle qu'il y a d'autres ressources, hein, il y a le cobalt, le zinc, le plomb, le charbon, les émeraudes, l'or, l'argent et même l'uranium.
Oui, le pays est tapissé de minéraux. Disons encore à propos du cuivre que toute l'économie zambienne est accrochée à cela et ça dépend largement des cours du cuivre, des matières premières. Ça fait un yo-yo et rien que de juillet jusqu'à maintenant, en 3 mois grosso modo, le prix du cuivre a déjà chuté de moitié.
Il faut rappeler que le cuivre contribue à lui seul à plus de la moitié du produit intérieur brut de Zambie.
Décryptage, l'histoire.
Les premiers habitants de la Zambie étaient des Bochimans qui vivaient de chasse et de cueillette. À partir du 4e siècle, de nombreux peuples bantous s'installent et vivent en communauté avec des chefs, dont certains participent à la traite des Noirs, principalement au profit des sultans de Zanzibar. En 1890, le chef de l'ethnie Lozi place son territoire, le Haut-Zambèze, sous la protection de la BSAC, la British South African Company, une société fondée par l'homme d'affaires britannique Cecil John Rhodes. Cecil Rhodes baptise brièvement ce territoire Zambézie du Nord et élimine la traite des esclaves. En 1894, les territoires situés au nord du fleuve Zambèze sont appelés Rhodésie du Nord et ceux occupés au sud du fleuve sont baptisés Rhodésie du Sud en l'honneur de Cecil Rhodes justement. Comment était alors administrée la Rhodésie du Nord qui deviendra plus tard la Zambie engulfée?
Tout juste un mot à propos de l'esclavage. C'est vrai que Rhodes, en voulant occuper des terres, il s'est heurté à des trafiquants d'esclaves qui faisaient affaire là. Mais il faut dire deux choses, peut-être bon, que c'est un argument qui a été utilisé pour coloniser, pour occuper l'intérieur de l'Afrique une fois qu'on a dessiné les frontières suite à la conférence de Berlin. Et c'est quand même pour servir un marché qui se prolongeait jusque dans les Amériques, qui a fonctionné grâce à la consommation européenne, américaine et autres. Comment c'était administré? Eh bien, c'était une concession de la BSAC jusqu'en 1923. Donc, la Grande-Bretagne n'a plus renouvelé la concession. Le Colonial Office a commencé à gérer la colonie elle-même. Et ça a continué jusqu'en 1953. Bon, on a essentiellement développé le cuivre. On a créé des réserves pour la main-d'œuvre. Mais la Rhodésie du Nord n'est jamais devenue une colonie de peuplement, contrairement à ce qui s'est passé au sud dans ce qui est aujourd'hui le Zimbabwe. La répartition des terres n'était pas la même. Dans le Zimbabwe, c'était grosso modo 70% des terres pour une agriculture capitaliste exercée par les Blancs. Le reste réparti en réserve pour la population. En Rhodésie du Nord, on n'a pas cette pression des colons.
En 1923, la Rhodésie du Nord devient donc protectorat britannique et le restera jusqu'en 1953, vous le rappeliez. Et sous protectorat britannique, c'est l'administration indirecte que les Anglais ont appliquée dans toutes leurs colonies. En 1953 est créée une fédération des deux Rhodésies, c'est-à-dire Zambie et Zimbabwe actuels, avec le Nyasaland, le Malawi d'aujourd'hui, une fédération qui durera pendant 10 ans, jusqu'en 1963. Que se passe-t-il en 1963? La situation était différente dans les deux Rhodésies.
Oui, cette idée de fédération, la Grande-Bretagne voulait plus ou moins se débarrasser de ses colonies, faire en sorte qu'elles se gèrent elles-mêmes. D'où l'idée de ramasser ces trois et d'en faire une fédération à qui on pourrait octroyer l'indépendance. Cela n'a pas marché, surtout parce qu'il y avait là un mouvement de nationalisme parmi les Noirs. qui ont refusé cela, d'abord parce qu'ils comparaient la Rhodésie du Nord avec celle du Sud, et même si c'était des colonies, avec son cortège de racisme, de discrimination, de salaires pauvres, etc.
C'était un régime ségrégationniste quand même.
C'était ségrégationniste, disons c'était un peu moins pire que
l'Afrique du Sud.
Et aussi que la Rhodésie du Sud, d'où un refus, non, et aussi les chefs pensaient que les terres, bon, qui avaient été gelées dans un fond de fiduciaire, pourraient donc être attribuées à des Blancs, il y avait cette peur-là, et donc là il y avait comme une coalition entre, disons, la chefferie d'un côté, les ouvriers et les citadins, pour refuser, et donc le nationalisme zambien, pourrait-on dire, a fait un bond. Et cela a amené à la crise, et les Britanniques ont finalement décidé de ne pas procéder à la fédération. Elle s'est effondrée, et donc on a introduit le suffrage universel, et 10 mois plus tard, c'était l'indépendance.
Alors, il faut rappeler que cette révolte des Africains a amené la création du premier parti africain, hein, qui a vu le jour quand même en 1948, alors que le pays était encore ségrégationniste. Vous le disiez, en 64, un an après la dissolution de la fédération, c'est le suffrage universel, le processus de décolonisation se révèle expéditif. Et après les élections, le parti UNIP de Kenneth Kaunda, c'est-à-dire le parti uni pour l'indépendance, remporte les élections et Kenneth Kaunda devient premier ministre. Et à l'indépendance, le 24 octobre, il devient le premier président de la Zambie. Comment était le président Kaunda? Quel dirigeant était-il, Ingolf Diner?
Bon, d'abord, il avait le prestige du libérateur. Il avait été emprisonné, donc ça a renforcé encore son prestige. Il s'est positionné aussi comme libérateur du subcontinent. N'oublions pas qu'à l'époque, il y avait l'Afrique du Sud de l'apartheid, il y avait 2 colonies portugaises, il y avait la Rhodésie du Sud. Donc il était devenu l'héros de la libération de l'Afrique australe. Son régime vers l'intérieur, il a assez vite concentré les pouvoirs autour de sa personne et il a très adroitement su jouer sur les appétits des uns et les envies des autres. Il était assez versatile, pratiquait le favoritisme par un jeu de cooptation, de répression, promouvoir. Et bon, il a assez vite nationalisé le secteur clé de l'économie. Ça faisait tant et tant de postes à pouvoir, donc de prébendes.
Nous sommes toujours avec Ingolf Diner, maître de conférence à l'Université Paris 8 et spécialiste de l'Afrique australe, pour nous décrypter la Zambie. Alors, en 1990, Kenneth Kaunda institutionnalise le multipartisme et un an plus tard, c'est la première alternance politique. L'UNIP de Kenneth Kaunda est battue par le MMD, le mouvement pour la démocratie multipartite de Frédéric Tshiluba. Quel dirigeant était Tshiluba?
Tshiluba était longtemps syndicaliste et il a su organiser et canaliser tous les mécontentements qui se concentraient finalement contre Kaunda et son régime. Bon, on ne peut pas dire que sa politique c'était de reprendre les mêmes et de recommencer parce que il y a eu d'autres qui sont entrés dans le gouvernement, mais le style de régime a assez largement été le même. C'est Mwanawasa qui a été appelé.
Mwanawasa qui a été donc le successeur de Tshiluba.
Oui,
après,
mais à l'époque il est devenu le vice-président de la Zambie.
Alors, conformément à la Constitution, après 2 mandats, Tshiluba est remplacé donc en 2001. Et Lévi Patrick Mwanawasa, qui avait pris la tête du MDD, le parti au pouvoir, est élu président de la République de Zambie. Brillant avocat, Lévi Patrick Mwanawasa était un chef plutôt atypique, Ingolf Diner.
Oui, comme on a déjà dit tout à l'heure, il a fait carrière surtout dans le privé comme avocat. Il avait du courage civique, il a défendu des cas jugés très difficiles. Et il a été nommé vice-président par Tshiluba. C'est pas lui qui s'est mis en avant. Et il a démissionné d'ailleurs quand il a vu qu'il y avait trop de corruption. Donc il est retourné dans son cabinet d'avocat.
Alors c'était au quotidien, hein, il consacrait ses efforts au redressement les finances publiques, et il s'était fait un ardent promoteur de la lutte contre la corruption, comme vous rappeliez, n'hésitant pas à épingler son prédécesseur, Frédéric Tshiluba, d'ailleurs.
Absolument.
Autre particularité, le président Mwana Wassa a présenté ses excuses à la population zambienne en janvier 2005, hein, dans un élan de sincérité désarmant. Il a reconnu n'avoir pas réussi à atteindre les objectifs qu'il s'était fixés. Il est vrai que le taux de croissance annuel du pays est de 5%, mais la pauvreté n'a pas reculé, et le taux de chômage dépasse les 50%, hein, et la majorité des Zambiens vivent avec moins de 1 dollar par jour. Mais plutôt que de demander pardon à son peuple pour cette situation, il aurait pu, à l'instar de ses homologues, pointer les promesses d'aide non tenues par les pays riches, par exemple. Pourquoi a-t-il choisi de demander pardon, d'assumer l'entière responsabilité de cette situation, à votre avis?
Peut-être pour deux causes. D'un côté, c'est vrai que beaucoup de promesses d'aide ont été faites et renouvelées, et la réalisation en monnaie sonnante et trébuchante, on n'a pas tellement vu. Ceci n'empêche qu'il y avait un régime, disons, de gabégie, de malfonctionnement à l'intérieur, dont la corruption était responsable pour beaucoup, à la fois cause et effet. Et il a essayé d'assainir la macroéconomie. Sans doute dépendait-il aussi des bailleurs de fonds. Il a obtenu la remise de dettes à plusieurs reprises. Il ne restait pas grand-chose pour augmenter le pouvoir d'achat de la population. Ceci dit, il a quand même accumulé jusqu'à sa mort un trésor de 700 millions d'euros.
Alors sur la scène régionale, il s'est montré tout aussi iconoclaste. Hein. Il s'est démarqué de ses pairs d'Afrique australe en n'hésitant pas à critiquer Robert Mugabe qu'il rendait responsable de la crise au Zimbabwe voisin. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il cultivait sa différence? C'était par conviction ou c'était simplement pour cultiver sa différence qu'il était atypique?
Je crois que c'était par conviction. Tout le monde, même ses adversaires, lui ont toujours attesté d'être un honnête homme, faisant preuve de probité, de courage civique aussi. Et bon, c'est lui qui a traité Mugabe comme Titanic en naufrage.
Décryptage, l'actualité.
Sa disparition prématurée laisse un vide, hein, et sa succession se prépare. Les Zambiens se rendront aux urnes ce jeudi, donc demain, pour élire un successeur à ce défunt président Mwana Wassa. Quels sont les principaux candidats en lice, Ngovdina? Il y en a quatre, hein, au total, mais il y en a deux qui se démarquent.
Il y a le président par intérim, Banda.
Rupia Banda, oui.
Pierre Banda, qui a fait carrière comme diplomate d'abord, ensuite il a eu tant et tant de postes dans l'appareil d'État, etc. Il est propriétaire d'une petite société de mines. Donc lui, finalement, il a été candidat pour son parti. Mwana Wassa n'a pas eu le temps de désigner un successeur, ce qui fait qu'il y a eu quelques tiraillements, ce qui pourrait se retourner plus ou moins contre Banda ou réduire ses chances. L'autre candidat, c'est Michael Sata. Tous les deux, d'ailleurs, ils ont 61 ans.
71 ans.
71, excusez-moi, oui. Et Michael Sata est considéré par beaucoup d'observateurs comme une brute, un corrompu, un méchant dans tous les sens du terme. Mais il s'est assez adroitement joué sur la frustration des gens. Ils veulent « Can we eat democracy ?» Est-ce qu'on peut manger la démocratie? Donc lui, il promet de leur mettre de l'argent dans la poche. Il est très versatile.
C'est aussi un tribun populiste, proche de Robert Mugabe.
Voilà, et son sobriquet, c'est King Cobra, le roi Cobra.
Alors, lequel des deux a le plus de chances de l'emporter, d'après vous?
Difficile. Jusqu'il y a quelques jours, on donnait un léger avantage à Banda. Un sondage est tombé qui donnait 12 points d'avance à Sata.
Qui est quand même très populaire dans les villes.
Qui est très populaire, dans les villes. Mais il y a encore un troisième candidat qui a des chances. C'est un jeune. Il a
46 ans, hein, par rapport à deux dinosaures.
Oui. Lui, il a fait...
Il s'appelle Aikande Ishilema.
Oui, il a fait des études d'économie-gestion à l'université de Lusaka et il a derrière lui déjà au moins 14 ans d'expérience professionnelle dans les affaires internationales. Il siège sur beaucoup de conseils d'administration s'il ne les dirige pas. Et à la dernière élection présidentielle, donc il y a 2 ans, il a quand même été troisième avec 25%.
Est-ce qu'il a des chances de l'emporter si les deux premiers venaient à se neutraliser l'un l'autre?
Bon, on verra. Une nouveauté pourrait être, si Sata l'emporte, ou par peu de chance si Chilema, qu'on ait un président qui ne soit pas issu de la formation majoritaire du Parlement. Parce que le système zambien, jusqu'à présent, connaît des élections, là le pluriel est justifié, toujours la même date, une fois pour désigner le président et une fois pour renouveler la Chambre. Et donc, si jamais il y avait donc décalage, ça serait ce qu'on a en France, on appellerait une cohabitation.
Et ce serait une première.
Ça serait une première.
Merci Ingolf Diener d'être venu nous décrypter la Zambie. Merci à Sébastien Gorin, à Fouk Fola et à Jonathan Detrault qui m'ont aidé à présenter cette émission. Restez à l'écoute, un nouveau journal dans quelques secondes.